Je voulais quand même vous dire, parce qu'on était parti le week-end dernier, merci à Daniel Arnold qui était ici pour apporter le message. J'avais été invité à Marseille, dans l'église de Rob Anthony, vous connaissez, je pense qu'il est déjà venu ici quelques fois. Et c'est leur retraite annuelle d'église, et donc on était un bon groupe dans un endroit pas loin de Aix-en-Provence. On était vraiment tentés d'y rester, hein. Franchement, c'est super génial en bas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc ils m'ont demandé d'entamer le thème de l'église. Donc on a parlé de l'église, c'était très très sympa. Et ensuite, bon, le mois de mai, c'est souvent des mois pour conférences. Et donc j'étais invité à Berlin. Et donc Meg et moi, on est aussi allés à Berlin, et on y était pendant 4 jours. On est revenu hier soir. Et Berlin, c'était une conférence de pasteurs, il y avait environ 200 pasteurs. En fait, on était à Wittenberg. Wittenberg, c'est la ville où Luther, vous savez, a cloué sa 95 thèses. On était à 2 minutes à pied de cet endroit. Il y a même des photos, des vidéos devant, là où il a cloué ses thèses. C'était vraiment génial. Et là, on m'a demandé de donner 3 messages. Comment combattre le découragement dans le ministère. Deuxièmement, comment savoir si on est appelé au ministère. Et troisièmement, comment dispenser droitement la parole de la vérité. Donc, c'était des thèmes vraiment intéressants. Et dans l'avion, donc je terminais parce que j'avais déjà préparé mon message pour aujourd'hui, donc c'était une semaine assez speed, mais bon, c'est quand même sympa. Et quand je me dis waouh, ça fait beaucoup, je me rappelle constamment que Jean Calvin, tenez-vous bien, prêchait tous les jours. Tous les jours. Ça explique pourquoi, par exemple, lui, quand il a enseigné le livre d'Ésaïe, il a donné 353 messages dans Ésaïe. D'accord, donc tout d'un coup, j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose comparé à lui. Lui, c'était incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'il est mort à 53 ans, donc c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Il a beaucoup, beaucoup bossé, mais il a aussi vraiment changé le monde par ses prédications. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie. Néhémie, chapitre 3 à 7. Alors chapitre 3 à 7, parce que vous savez qu'on fait tout le livre de Néhémie en 6 messages. Donc 3 à 7, ça fait chapitre 3, 4, 5, 6, 7. On va faire 5 chapitres, d'accord? Et je pense que j'aurai terminé vers les 4 heures cet après-midi, d'accord? Non, je blague, d'accord? Et on va juste rester dans les temps. Et le thème de mon message, c'est le 3e message que je donne sur Néhémie, et celui-ci, comment reconstruire? Comment reconstruire? Je vais vous raconter une histoire pour commencer. Il y a environ 15 ans de cela, quelqu'un nous a un jour fait remarquer que nous avions chez nous, dans notre maison, d'immenses combles sous le toit, inexploités, pendant toute la longueur de la maison. Ils nous ont expliqué qu'il serait tout à fait possible de transformer ces combles en espace de vie. Alors cela nous a intrigués parce qu'on n'y avait pas pensé. Parce qu'on avait qu'un étage, c'était relativement petit. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, waouh, si on peut aménager les combles, ça nous donnera beaucoup plus d'espace. Alors, il est intéressant de noter que pour aller de la phase idée à la phase accomplissement, ça demandait environ 7 phases, 7 étapes. Premièrement, il a fallu qu'on décide. On se lance ou on ne se lance pas? On est fou ou on n'est pas fou? Parce que vous savez, des projets comme ça, pas toujours évident. Nous avons regardé notre situation financière pour évaluer si l'idée était même une idée à poursuivre. Alors on a finalement dit, on se lance, on essaie. Deuxième phase, il a fallu évaluer. C'est bien beau de dire, allez, on se lance, maintenant il faut faire venir quelqu'un pour voir si c'est vraiment jouable, parce que c'est pas moi qui allais le faire, ça je vous le garantis, d'accord? Donc on a appris qu'il y avait des gens qui s'appellent des combliers. Et eux, leur spécialité, c'est d'aménager les combles. Donc ils sont venus, à 2 ou 3, et ils ont mesuré, c'était tout un grenier vide. Il y avait des toiles d'araignée, des poutres, il n'y avait rien, quoi. Et ils ont tout regardé. Ils sont allés dans tous les recoins de la maison pour voir si ce qui était possible. Et ils sont revenus avec un immense sourire. Et ils nous ont dit, Monsieur et Madame Glass, nous allons vous faire quelque chose de génial. Alors là, tout d'un coup, tu es encouragé, d'accord? Mais ils ont dit, mais ça ne va pas être sans quelques défis. Ah, 3e phase. Il nous a fallu résister au découragement. Au découragement. Parce qu'ils ont commencé à faire leurs travaux et tout d'un coup, des grosses poutres ont apparu. Je ne sais pas où elles étaient, mais apparemment, elles étaient quelque part. Et ils ont dû les scier, ces poutres. Et quand ils sciaient ces poutres, j'étais convaincu que la maison allait vraiment tomber, quoi. Parce que c'était des grosses poutres. Et ils les enlevaient carrément. Et ensuite, Il fallait faire des ouvertures de fenêtres. 5 Velux, 2 fenêtres. Et ensuite, on ne savait pas si c'était possible. Et ensuite, on se demandait si les voisins allaient réagir. Parce que d'ouvrir ces fenêtres allait nous donner un vis-à-vis direct sur leur propriété. D'accord ? Et alors, le bruit, la poussière, je me rappelle, au milieu des travaux, Meg et moi, on s'est assis nous un jour dans la cuisine, on s'est dit, mais on est complètement fous, on s'est lancé dans quoi, là ? Il y avait de la poussière partout, on mangeait le soir, il y avait de la poussière, et c'était horrible, quoi, tu vois ? Et on se dit, mais ça va jamais finir. 4. Un jour, 4 ou 5 mois plus tard, terminé. Le travail était fait, et je me rappelle... Ce jour tellement bien, on s'est dit, on va honorer les ouvriers. Et donc, on a fait Meg a fait un immense repas, d'accord, soyons clairs. Et là, on a remercié chacun, et surtout, c'était assez marrant, celui, Carlo, qui a construit les escaliers en bois. Le jour où il a dit, je veux faire un escalier, il avait un petit crayon, un petit gros crayon, vous savez, les ouvriers, ils ont des très gros crayons, je ne sais pas comment ils font pour les tailler, je crois qu'avec un couteau. Et il a pris quelques petites notes comme ça, puis il est rentré chez lui. Il a dit, je veux un super escalier. Mais il a à peine mesuré. Il est revenu, je sais pas, 2 semaines plus tard. Tout était nickel, quoi. Franchement, tu es impressionné par ces gens et le travail qu'ils font. Et donc, on les a honorés pour tout ça. 6. Ensuite, il fallait donner. Parce qu'il y avait la facture. Et ouais, c'est ça le problème, d'accord ? Et donc, on a dû payer la facture, bien sûr. Et comme par hasard, il y avait des coûts cachés. Voilà, on a dû s'arranger. Bref, on a payé ce qu'il fallait payer. Et finalement, une fois que tout était fini, tout était payé, 7e phase, on a célébré. D'accord ? Et on célèbre tous les jours, depuis 15 ans, eh bien, ce travail. Alors, c'est tout bête. Hein. Je vous raconte cette histoire parce qu'en me préparant pour le message d'aujourd'hui du récit de la construction, la reconstruction du mur de Jérusalem par Néhémie, ça m'a fait penser à la construction de nos combles. Car les mêmes phases sont celles qu'il a dû subir, si vous voulez. Néhémie, bien sûr, avait un projet inspiré de Dieu. Et ce qui est sympa avec cette étude, c'est qu'on peut avec prudence faire certains parallèles dans nos vies. Il y a plein de choses. Et pensez-y, qu'est-ce qu'on est appelé à reconstruire dans notre vie de tous les jours ? D'accord ? Alors lui, c'était un mur, littéralement un mur. Mais peut-être il y a des gens qui doivent reconstruire un mariage. Il peut y avoir des problèmes, d'accord ? Des crises. Des gens qui ont des problèmes dans leur famille. Et parfois, il faut se regrouper, essayer de reconstruire nos familles. Parfois, c'est une carrière. Une carrière n'a pas été comme on aurait voulu qu'elle aille, et puis il faut reconstruire quelque chose derrière. Peut-être c'est une église. On le sait très bien, les églises peuvent passer par des moments très difficiles. Alors, à un moment donné, il faut se dire, voilà, comment on va faire pour reconstruire ? Je pensais même à une vie, ma vie de péché, la vôtre aussi, c'était des vies brisées. Eh bien, le Seigneur reconstruit notre vie. Et nous, parfois, on a des chutes et il faut reconstruire chaque fois. Et donc il y a des parallèles. Alors, je ne veux pas forcer les parallèles parce que l'histoire, voyons, n'oublions pas, c'est l'histoire de la reconstruction d'un mur. Voilà l'histoire. Donc, on ne veut pas trop symboliser tout ça, mais on peut quand même faire des parallèles de grands principes. Donc, avec ça, je vous invite à réviser avec moi juste rapidement où on en est, surtout si vous avez raté les premières études. Dieu avait promis à Israël que si Israël lui obéissait, il les bénirait en tant que nation, mais s'il ne l'obéissait pas, eh bien qu'il les jugerait, et le jugement serait une déportation. Et c'est ce qui s'est donc passé. En 930 ans avant Jésus-Christ, Israël le Nord a été déporté, et ensuite... Juda au sud, d'accord. 722, excusez-moi, Israël a été déporté par les Assyriens, et 586 avant Jésus-Christ, Juda fut déporté par les Babyloniens. Et tout ça, ça a été prophétisé par Jérémie, dans Jérémie 25. Au bout de ces 70 ans, les Juifs ont aspiré à retourner dans leur pays d'origine. Alors il y a eu 3 retours, celui de Zorobabel, celui d'Esdras, et finalement celui de Néhémie. Néhémie en 444 avant Jésus-Christ. Et lui, son objectif, c'était de rentrer à Jérusalem, de la Babylonie, de la Syrie si on veut, pour reconstruire le mur qui était en ruine. Le temple avait été déjà reconstruit par Zorobabel, mais pas le mur. Donc le temple n'était pas protégé. Et donc, l'histoire, c'est comment a-t-il fait pour reconstruire ce mur ? Alors, devinez, il y a 7 phases. Cette phase, c'est les mêmes, d'accord? Les mêmes que pour nos combles. D'accord? Je ne pense pas qu'il s'est inspiré par nos combles, mais je pense que plutôt c'est le contraire. Alors, première phase. Il faut décider. Il faut décider. Et ça, on l'a vu dans le chapitre 1. Néhémie décrit, on voit ce chapitre qui décrit la réaction de Néhémie lorsqu'il entend la description de l'état de ruine de la ville de Jérusalem et surtout du mur. On a déjà regardé, je ne vais pas regarder en détail, d'accord? Vous vous rappelez qu'il est échanson du roi Artaxerxès, le roi de Perse. Il habite dans la ville de Suse. Et lorsqu'il apprend les nouvelles sur le piteux état des murs de Jérusalem, il réagit de cinq manières. Il a enquêté, il a écouté, mais il a surtout pleuré. Il a prié, et vous vous rappelez, il s'est ensuite proposé. Il s'est proposé. Il s'est dit, bon, il y a un problème là-bas, je m'engage. Je veux faire partie de la solution. Pas juste observer le problème. Et c'est comme ça que la reconstruction a commencé. Il a pris la décision qu'il allait s'impliquer dans la reconstruction de ce mur. Et je pense que c'est vrai pour toute reconstruction. À un moment donné, c'est nous qui devons nous dire, allez, je m'engage. Je prends la décision. Deuxième phase pour reconstruire, il faut évaluer. Au chapitre 2, Néhémie se retrouve devant le roi, contraint de révéler ses projets à ce roi. Ce chapitre 2 décrit vraiment le côté courageux de Néhémie, un courage motivé par son désir d'honorer Dieu et son nom, car la ruine de Jérusalem est une opprobre au nom de Dieu et sa gloire. Alors on a vu que son courage s'est manifesté de plusieurs manières. Premièrement, il a patienté. Ensuite, il a finalement eu l'occasion de demander, il était prêt, mais quand le roi lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, il lui a expliqué qu'il avait besoin d'aller reconstruire ce mur. Il a demandé deux trucs. Il a demandé, premièrement, un laissez-passer pour pouvoir passer de l'autre côté du fleuve. Et deuxièmement, vous rappelez, il a demandé au roi s'il pouvait simplement payer toute la facture. Il lui fallait du bois, il lui fallait tout, et le roi a dit oui. D'accord ? Donc il était plutôt gonflé, mais le Seigneur a vraiment intervenu. Et donc il a reçu le laissez-passer et tout ce qu'il fallait pour reconstruire les murs et les portes et tout le reste. Et il est arrivé à Jérusalem, vous vous rappelez, puis la première chose qu'il a fait, il a pris du temps pour évaluer. Il a évalué. Il a pris son cheval ou son âne, on ne sait pas exactement. Il a fait le tour sud de la ville et il a commencé à regarder pour voir l'état des murs. Et ils étaient en très mauvais état. À un moment donné, ils étaient coincés, ils ne pouvaient même plus passer. Et donc, il est revenu et c'est là où il a réalisé qu'il devait inspirer ses troupes. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a inspiré ses troupes, ils ont commencé à travailler et il a persévéré face à l'opposition grandissante. Et ça, on y reviendra. Donc, premièrement, il faut décider. Deuxièmement, il faut évaluer. Trois. Et là, on attaque aujourd'hui. Trois. Il faut qu'on commence, déléguer. Il faut déléguer. Alors, bien sûr, Néhémie est absolument certain que son projet est de Dieu. Ça, c'est clair et net, ça, on l'avait déjà vu. Et c'est vrai que la tâche de reconstruire les murs de Jérusalem était tout simplement, la tâche était titanesque. Et surtout avec ces conditions adverses. Ça allait exiger un effort particulier d'organisation. Et c'est là où Néhémie se révèle être un stratège d'exception et un maître de la délégation. Regardez le chapitre 3. On est dans Néhémie, chapitre 3. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, premièrement, il est hyper organisé. Chapitre 3, verset 1. Et la Chib, le souverain sacrificateur, se lave avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Donc, alors, je suis rentré très tard hier soir et j'ai oublié d'amener le plan, à moins que vous puissiez le retrouver, le plan qu'il y avait la semaine dernière, le plan de Jérusalem avec les portes. Mais j'ai oublié de le mettre sur mon ce matin. Mais donc, il va à la porte des brebis, et là, c'est la première porte. Verset 3, les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Alors, ce sont des noms qui ont donné aux portes, d'accord? Donc, la porte des brebis, la porte des poissons. Au verset 6, il y a la vieille porte. Jodada, fils de Beseach, de Machoulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ensuite, au verset 13, il y a la porte de la vallée. Hanoum et les habitants de Zenoach réparèrent la porte de la vallée. Verset 14, Beth Hakem répara la porte du fumier. Verset 15, Saloum, fils de Koézé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Verset 26. Les Néthiniens, demeurant dans la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux. Une porte qui s'appelait la porte des eaux. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun dans sa maison. Verset 29. Après Hutsadok, fils d'Immer, etc., ont réparé la porte de l'Orient. Et verset 31, la porte de Mipkad. Ah, et là on voit, c'est en anglais, excusez-moi, mais là on voit les portes autour de Jérusalem. Donc, c'était très logique. Il a décidé, ben voilà, on va réparer porte après porte, et il met des gens à ces portes, et leur travail c'était de réparer cette porte déjà. Il a aussi assigné à chaque groupe un endroit spécifique. Il y a des petits trucs vraiment intéressants dans ce chapitre. Par exemple, regardez, au verset 2, « À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zaccour, fils d'Imri. » Donc, il y a les gens autour de la porte, mais regardez, il place les gens à côté des gens qui réparent la porte. Et on voit au verset 4, « À côté d'eux ». Verset 5, « À côté d'eux ». Verset 7, « À côté d'eux ». Verset 8, « À côté d'eux. » Verset 9, « À côté d'eux. » Verset 10, « À côté d'eux. » Verset 12, « À côté d'eux. » etc. Tout le monde est à quelqu'un à côté de lui, en train de bosser. Mais ce n'est pas tout. Verset 16, « Après lui, Néhémie, fils d'Akbouk, chef de la moitié du district de Beth-Shavet, travaillait aux réparations jusqu'à vis du sépulcre de David. » Donc il y avait aussi une chronologie. « Après lui. » Verset 17, « Après lui. » Verset 18, après lui. Verset 20, après lui. Verset 21, après lui. Verset 22, après lui. Verset 23, après lui. Verset 24, après lui. Verset 27, après lui. Verset 29, après lui. Verset 30, après lui. Verset 31, après lui. Je vais vite. Total, 28 fois, on apprend quelqu'un est à côté de quelqu'un d'autre en train de bosser. Donc, il assigne de manière très particulière les tâches et les endroits de travail. Autre remarque intéressante, il assignait les travailleurs de travailler proche de chez eux. Au verset 21, par exemple, « Après lui, Mehmoth, fils d'Uri, fils d'Akor, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. » Verset 23, « Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. » Et on continue, après eux, Azaria, fils de Masséja, fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Pareil, verset 28 jusqu'à 30. Alors pourquoi? Est-ce que c'est stratégique de demander à quelqu'un de réparer une porte ou une portion du mur à côté de chez lui? Ben oui. Parce que plus tu es proche de chez toi, plus tu vas être intéressé de voir le projet être bien fait. Si la vue de chez toi, c'est le mur ou la porte, qu'est-ce que tu penses? Ben, tu aimerais une belle porte bien faite. Donc, c'est très, très stratégique. Tu ne serais pas contraint de devoir faire tout le tour de la ville pour aller de l'autre côté de la ville pour réparer une porte, alors ça prendrait du temps en plus. Et dans le cas d'une attaque, ils étaient proches de leur propre famille pour les protéger avec plus grande motivation parce qu'ils sont proches de chez eux. Et en plus, étant proche de chez toi, bah, toute la famille peut aider d'une manière ou une autre. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est très stratégique. Autre chose, il faisait travailler aussi ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem. Au verset 2, certains vivaient à Jéricho, d'autres à Tekoa, des villes encore plus loin, à Gabaon, verset 7, à Mispa, verset 7. Alors apparemment, ce sont des gens qui n'avaient pas de maison à l'intérieur de Jérusalem. Mais ils travaillent aussi, eux ils viennent, c'est plutôt des, comment on appelle, les gens qui viennent de loin et ils viennent dans une ville pour travailler. Pas des saisonniers, non, plutôt des pendulaires, voilà, des pendulaires, ou des frontaliers. Hein? D'accord, je le dis. D'accord, ouais. Encore, ils attribuaient des sections de murs aussi par vocation. Là, c'est intéressant, regardez le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Est-ce que c'est anodin, ça? Ben non. Premièrement, pourquoi est-ce qu'ils sont en première de liste? Pour donner l'exemple, probablement. Ah, les sacrificateurs, ils ne font pas que sacrifier des trucs, d'accord, les animaux et tout ça. Ils bossent aussi. Ils sont là pour bosser. Et on leur attribue une porte, mais pas n'importe laquelle. Laquelle ? La porte des brebis. Bien vu, Néhémie. Il est malin, Néhémie. Alors, porte des brebis. Pourquoi vous croyez que cette porte s'appelle la porte des brebis ? Eh bien, la porte des brebis était la porte par laquelle les animaux étaient amenés au temple pour être sacrifiés. Écoutez, si ça, c'est pas une motivation pour un sacrificateur, je ne sais pas ce qu'est une motivation. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est coïncidence ou pas coïncidence ? Avec Dieu, je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence. De savoir que 400 ans plus tard, Jésus rentrerait dans Jérusalem par cette porte depuis le jardin de Gethsémané afin de donner sa vie en sacrifice pour nous une fois pour toutes. Il a sonné la fin des sacrifices d'animaux car l'agneau parfait de Dieu venait d'être sacrifié par cette porte. C'est quand même intéressant. Alors bien sûr, si un sacrificateur peut aider, tout le monde peut aider. C'est le but ici. Tout le monde peut aider. Et je ne pense pas que les sacrificateurs, ils étaient super bons à plâtrer, quoi. Ils ont dû apprendre. Bah, dis-moi comment faire du plâtre, et du ciment plutôt. C'est du ciment ou du plâtre ? Je ne sais même pas la différence. Ah ouais, il faut vraiment mettre au travail bien exactement ce qu'il faut faire, parce que je risque de mettre de la peinture où il faut du plâtre. Je ne sais pas du tout, d'accord ? Mais dans le verset 8 et 22, il y avait des orfèvres aussi. Il y avait des parfumeurs au verset 8. Des parfumeurs, tu dis, mais les parfumeurs sont des gens très délicats, j'ai l'impression. Je ne sais pas, un parfumeur, ça me paraît délicat. Non, au boulot, briques, cailloux, allez, comme tout le monde. Même les chefs politiques locaux, versets 9 à 12, 14 à 19. Il y avait des lévites au verset 17, des marchands au verset 31 à 32, même des jeunes filles au verset 12. Alors c'est quoi les principes qu'on ressort de ce chapitre ? Bien, la reconstruction du mur a demandé l'effort de tout le monde, premier principe. Tout le monde. Sacrificateurs, nobles, politiciens, orfèvres, marchands, etc., même parfumeurs. Comme je dis déjà, aucune de ces personnes n'était particulièrement douée pour la reconstruction du mur, mais ils étaient d'accord d'apprendre et de se mettre au boulot. Ça, la clé. Deuxièmement, certains avaient de plus grandes capacités que d'autres. Au verset 11, une autre portion de la muraille et le tour des tours fut réparé par Malkija, fils d'Arim, et par Hachoum, fils de Pacha et Moab, et le verset 19, et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, fils de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal. Ces versets impliquent qu'ils étaient plus rapides que les autres. Ils avaient terminé leur travail, ils ont dit, écoutez, est-ce que je peux faire autre chose ? Oui, tiens, viens, va aider là. On le voit au verset 21, 24, 27. Certains travaillent plus vite que d'autres. C'est bien de le savoir. Verset 14, certains étaient d'accord d'entreprendre du travail moins noble que les autres. Verset 14, Malkija, fils de Raka, fils d'Itrik, c'est dur hein, ces noms, hein, Beth Akerem, répara la porte du fumier. Pourquoi est-ce que vous croyez que cette porte s'appelle la porte du fumier ? Parce que c'est là où c'était la porte des poubelles en fait. C'était le... Comment on appelle l'endroit où on met les poubelles ? Où les camions ils vont mettre ça dans la déchetterie, voilà. C'était la déchetterie de Jérusalem. Et ils mettaient tout, excréments, tout, ça puait à fond. Ben, il fallait quand même quelqu'un répare cette porte. Donc, chapeau quand même. Ils étaient d'accord d'entreprendre le travail moins noble que les autres. Certains avaient plus de zèle que d'autres. Verset 20, après lui, Baruc, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion. Ah, lui, il était toujours devant. À fond, les gars. Allez, on y va. Ouais, trop bien, tu vois. Ah, par contre, il y en avait qui n'étaient vraiment pas intéressés à travailler. Verset 5, apparemment, à côté d'eux, travaillaient les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Et ouais, il y a toujours quelques-uns comme ça qui disent, ah non, désolé, pas moi. Et là, c'était en plus des hauts palaces, des seigneurs, là. Ah non, ce travail, franchement, non, là, écoutez, là, c'est trop bas pour moi. Non, s'il vous plaît, quand même pas ça. D'accord. C'est intéressant, hein ? On ne sait pas, en fait, pourquoi ils refusent de travailler. Et verset, chapitre 4, verset 6, intéressant, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » C'est ça la clé. Je crois que c'est ça la clé d'une reconstruction. Est-ce que j'ai le cœur ? Est-ce que j'ai ce travail à cœur ? Est-ce que je suis prêt à donner et à offrir et à faire ce que je dois faire pour aider dans la reconstruction de ce qu'on doit reconstruire ? Donc, quelle que soit la chose que nous devrons construire, c'est tout à fait le même principe. Si on a un problème avec quelqu'un, ou si on a un problème de mariage, ou de famille, ou d'église, de que ce soit, ben à un moment donné, il faut dire, bon, est-ce que je veux faire partie de la solution? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à aller? Est-ce que je suis prêt à faire mon travail, ma tâche, la chose que je dois faire pour pouvoir faire avancer cette reconstruction? 4. Donc, il faut décider, évaluer, déléguer. 4. Il faut résister. Il faut résister au découragement. C'est ce que Meg et moi, on a vu avec nos combles. Au milieu du truc, tu dis, aïe, aïe, mais on s'est lancé dans quoi? Ça va jamais finir. Je crois qu'il nous avait dit que ça prendrait 2 ou 3 mois, ça a pris le double. Le prix n'était pas le double, mais c'était plus. C'était toujours plus, en fait. Bon, c'est vrai qu'il nous disait, ouais, voulez-vous les prises, voulez-vous les où? Moi, j'ai aucune idée. Alors, je dis, mais mettez-en partout. Ah ouais, mais ça coûte. Alors, on a beaucoup de prises partout. Mais il y a des prises, on n'aurait jamais dû les mettre là. Parce que tu te cognes, parce qu'on a des combles, vous voyez? Et puis, voulez-vous les interrupteurs? Ben, on ne savait pas, alors mettez-les un peu partout. Alors, il y en a un peu partout, mais ça coûte tout ça. Ben, on a réalisé après, vous voyez? Alors, voilà, il faut quand même réfléchir un peu mieux. Bon, ce n'était pas exorbitant, mais c'était quand même... C'est amusant, d'accord? Amusant. Alors, ici, il y a 2 sortes d'opposition, d'accord? Premièrement, l'opposition, ce que j'appelle l'opposition externe, et le découragement interne, d'accord? Alors, il y a 2 chapitres. Les chapitres 4 et 6, c'est plutôt l'opposition externe. C'est intéressant que 3 chapitres entiers sont consacrés à l'opposition de Sambalat et ses amis à l'encontre de Néhémie et son projet de reconstruction. Mais aussi avec l'opposition interne, plutôt le découragement. Mais je me suis dit, mais 3 chapitres, c'est beaucoup. Sur 13 chapitres, ça fait 23% du livre. 23% du livre. Alors, qui étaient ces individus? Alors, on avait déjà rencontré au chapitre 2, verset 10, Sanballat, le renite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et verset 19, Sanballat, le renite, Tobija, le serviteur ammonite, et Gershem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Donc voilà, c'est un groupe de personnes, des Samaritains qui, globalement, Sanballat, qui n'étaient pas d'accord avec les Juifs qui allaient revenir rebâtir leur temple et leur ville. Pas d'accord. Donc le leader, c'est Sanballat, Horonite de la ville Beth-Horal, environ 15 km au nord de Jérusalem. On a l'impression qu'il avait un poste important selon chapitre 4, verset 1 à 4. Il y a un papyrus éléphantine qui mentionne les fils de Sanballat comme ayant été les gouverneurs de la Samarie en 408 avant Jésus-Christ. Donc il y a vraiment tout un côté historique à tout ça. Tobija, c'est un ammonite. En tant qu'ammonite, Tobija était un ennemi acharné long terme des Juifs selon Deutéronome 23, 3 à 4. Il était lié par mariage à des amis de Néhémie, en lien de parenté avec le sacrificateur Eliashib, chapitre 13. Il y a un autre ennemi qui apparaît au chapitre 4, Gesh, l'arabe. Et on voit que le groupe va s'agrandir, chapitre 4, 7 à 8. Et au verset 8, en fait, ils se liguent ensemble pour attaquer Jérusalem. Alors bien sûr, on ne peut pas parcourir tous ces chapitres, on n'a pas le temps, d'accord? Donc ce que j'aimerais faire, c'est de résumer, le genre d'adversité sous laquelle se trouvaient Néhémie et ses amis dans Jérusalem, d'accord? En fait, Sanballat et ses amis utilisent 8 formes d'opposition. 8 formes d'opposition. On va les regarder très très rapidement. Numéro 1, la moquerie. On vient de le lire au verset, chapitre 4, verset 7. Où est-ce que j'ai lu ça? Je viens de le lire. Deux, 19. Ah ouais, je suis pas dans mon chapitre. Merci. Sanballat, l'Horonite, Tobija, le serviteur d'Ammonite, voilà, Geshem l'Arabe, ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Alors c'est une tactique simple et efficace. Goliath s'est moqué de David lorsqu'il est sorti avec sa fronde pour l'attaquer. Goliath s'est dit, mais c'est n'importe quoi, David, toi et ta petite fronde. D'accord? Les soldats se sont moqués de Jésus dans Luc 22, 63, 65, lorsqu'il était cloué à la croix. Alors, il se moque de quoi? Alors, chapitre 4, en fait, c'est là où on le voit. Verset 1, de leur force. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua, encore voilà ce que je cherchais, se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» Mais regardez, vous n'êtes pas fait pour ce genre de travail, vous n'y arriverez jamais. Donc ils se moquent de leur force. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils donneront vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'Ammonite était à côté de lui et dit, « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Ils disent, mais Tawar, vous construisez n'importe quoi, c'est un château de cartes, votre mur. Il va s'effondrer avec un coup de vent. Ils se moquent de leur spiritualité, là. Sacrifieront-ils? Non, mais vous êtes trop spirituel pour ce genre de travail, vous. Ils se moquent, hein. Et au verset 2 même, il dit, vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et juste avant, ils impliquent, ils se disent comme par la prière et par votre spiritualité, c'est comme ça que vous allez construire ce mur. Alors, c'est quoi la réaction de Néhémie? Verset 4, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Il prie, la première réaction. Fais retomber ces insultes sur leur tête. C'est ce qu'il est en train de dire. Il demande à Dieu simplement de s'occuper d'eux pour lui. Seigneur, tu connais la situation. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Il ne voulait pas se laisser distraire par eux. Pas de vengeance personnelle, mais la justice et la gloire d'adieu de Dieu à l'égard de ces gens. 2. L'intimidation. L'intimidation, chapitre 4, verset 8. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et au verset 8, regardez, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà, donc ils se réunissent ensemble pour intimider les gens à Jérusalem. Ça fait peur. Néhémie soupçonnait l'attaque de ces personnes. Il s'y est préparé. Au verset 9, nous nous priâmes notre Dieu, donc ils sont toujours en train de prier, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc c'est intéressant, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut d'un côté prier, faire confiance au Seigneur, mais de l'autre côté, il faut prendre les mesures humaines, dans leur cas militaire, pour contrecarrer l'ennemi. 3. Le découragement. Verset 10, cependant, Judas disait, les forces manquent et à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est comme ils sont au milieu du projet, là, tout d'un coup, ils sont complètement découragés. Ils ont tellement bossé, ils voient la moitié. Mais tout n'est pas fini. Et en plus, il y a le danger tout autour, maintenant. C'est un peu comme les espions, vous vous rappelez, les espions qui sont montés... Dans la terre promise, Jésus était sur le bord, là, Moïse, et ils attendaient, et les espions montent, et ils redescendent. Et ils disent, mais non, il y a des géants là-bas. Il y a des géants. On va y aller, on va se faire massacrer là-haut. Et tout le monde devient découragé. Alors là, ils concluent, mais on va jamais y arriver. Ben, je me rappelle, à un moment donné, avec nos combles, là, on se dit, mais... Puis en plus, c'est un peu quand ils ont coupé les poutres. Pendant un ou deux mois après, la maison se repositionnait. Alors on entendait, on dormait, tout d'un coup, puis une poutre qui craquait. Tu dis, mais c'est quoi? Ils nous ont détruit notre maison, ces gens, quoi. Et puis c'est pas du tout le cas, maintenant ça craque plus, d'accord? Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, mais ça va jamais finir, ce truc. 4. La peur. C'est encore, ces menaces, ces armes des ennemis, si la peur... On est dans chapitre 4, verset 11. « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » En fait, ils menacent qu'ils vont venir les envahir et les tuer. Regardez la réponse de Néhémie. Je regardais verset 14, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, et pour vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons. C'est beau, hein? Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Et au verset 15, Dieu anéantit leur projet. Et ce qui est intéressant, au verset 21, ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est toujours cette double chose. Le côté spirituel, ils prient, le côté, ils sont armés pour leurs ennemis. D'accord? C'est toujours prêt. Verset 21, c'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Le verset 23, et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Donc la construction continuait, mais il y avait les gens prêts. Prêts. Il y avait encore cinquièmement la ruse. Chapitre 6, je n'avais pas encore posé les battements des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et que je n'y restais plus, qu'il ne restait plus de bêche. Alors maintenant, ils sont vraiment furieux. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Et ils avaient médité de me faire du mal. Ruse. Ils disent, écoute, Néhémie, allez, on va se réunir. Faire une grande discussion entre nous. Et on va essayer de trouver un compromis. Où, voilà, ils avaient quelque chose en tête. Ils avaient une ruse en tête. Mais Néhémie le voyait venir. Il le voyait venir. Il voyait qu'il voulait lui faire du mal. Donc il n'a pas cédé à cette ruse. C'était une ruse. C'était une ruse. 6, calomnie. Calomnie. Chapitre 6, verset 5. Il y a une cinquième requête de Sanballat qui se fait avec une lettre accusant Néhémie de deux choses, de sédition, de révolte. Il dit, ouais, Néhémie, en fait, tu te révoltes contre le roi. C'est ce qu'il dit au verset 6. Le bruit se répand parmi les nations et Gachoum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Donc ils leur disent, hey, tu vois, Néhémie, en fait, vraiment ce que tu veux, c'est révolte et t'établir roi. Donc ils répondent cette fausse accusation vis-à-vis de Néhémie. Mais c'était efficace parce que les Perses, ils ne toléraient pas ce genre de choses. S'il y avait une menace, tu étais exécuté. Donc c'était tout à fait efficace, quelque part, pour intimider. Il voulait affaiblir la réputation de Néhémie. Alors, la réponse de Néhémie, verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Donc, il répond clairement et nettement, c'est faux. C'est faux. C'est une tactique pour essayer de nous décourager. Et finalement, traîtrise, versets 10 à 14, une histoire, enfin, ça c'est intéressant. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi, verset 10, je me rendis chez Shemaja, fils de Déjla, fils de Mehetaébil, et s'étant enfermé, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendrait la fuite. Et verset 12, et je reconnus que c'était pas Dieu qui l'envoyait. Donc il y a un gars qui dit, voilà, je me suis enfermé dans une maison, Néhémie, viens, viens, ils vont te tuer, viens, viens chez moi et je vais te protéger. Et on va aller, toi et moi, dans le temple, et comme ça on sera protégés. Alors Néhémie, il le sentait ça aussi. Alors là, et il savait que c'était faux parce qu'il a consulté sa Bible, Néhémie, et la loi défendait expressément que quelqu'un qui n'était pas sacrificateur de rentrer dans cette partie du temple. Nombre 3, 10 et 18, 7. S'il avait fait cela, il aurait profané le temple et se serait crédibilisé auprès du peuple. Et verset 13, en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ils se sont dit, voilà, si on peut faire entrer Néhémie dans le temple là où il ne devrait pas être, il sera vu comme étant un pécheur au vu du peuple et sa réputation sera terminée. C'est malin. Très malin. Et en fait, on apprend au verset 13 qu'il a été payé pour faire ça. Attendez, voilà. J'aurais peur. Ah ouais, regardez verset 12. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Oh, c'est gros. C'est gros. Et finalement, l'influence. Chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Et au verset 19, on apprend, « Il disait même du bien de lui en ma présence et lui apportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. » Bref, Tobija n'a jamais arrêté, il n'a jamais arrêté d'essayer d'influencer les gens contre Néhémie. Donc ça, c'était, comment dire, les, comment j'avais intitulé ça, j'avais l'opposition externe. Mais il y a aussi un découragement interne. Alors de nouveau, hein, je vais un petit peu vite, excusez-moi, mais c'est la nature, quand on essaie de faire Néhémie en 6 messages, on est un petit peu obligé. Donc il y avait non seulement l'opposition externe, qu'on a regardé brièvement, mais il y avait aussi un découragement interne. Et dans le chapitre 5, les versets 1 à 10, je vous raconte ce qui se passe, d'accord ? Ben juste, regardez verset 1. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes, donc parmi les Juifs, hein, des grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous et nos filles, nous sommes nombreux, et qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » Donc ils avaient faim. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Il y avait une famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles et nous sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont d'autres. Vous savez ce qui se passe ici? C'est que tout d'un coup, ils réalisent, les Juifs, qu'ils ont faim. Ils ont faim. Ils se plaignaient aussi de devoir vendre leurs biens pour pouvoir acheter la nourriture. Et au verset 4, ils devaient payer les impôts et certains même étaient au point de devoir vendre leurs filles et leurs fils pour avoir de l'argent pour manger. Ça paraît fou. Mais le vrai crime ici, c'est que ce sont des Juifs riches qui prêtaient de l'argent à des taux exorbitants aux trois premiers groupes. C'est eux qui achetaient leurs enfants pour cela. Donc, c'est les Juifs qui profitaient des Juifs. Ça, non. Les Juifs ne devaient pas prêter de l'argent à un autre Juif avec intérêt, selon Lévitique 25. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Néhémie, face à ce problème-là? Ben, il se met en colère, verset 6. « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes à ces paroles-là. » Très irrité. Ensuite, il les réprimande. Verset 7, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. » Et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à l'intérêt à vos frères ?» Il les réprimande. Il leur dit clairement, « Non, là, vous faites faux. C'est pas bien. » Alors, la bonne nouvelle au verset 12, c'est qu'ils se repentent. Ils répondirent, « Nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » C'est beau, ils se repentent. Alors, j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fais jurer de tenir parole. Et ensuite, au chapitre 6, 14 à 19, c'est Néhémie qui montre l'exemple. Et moi, je trouve juste un petit détail tout à fait incroyable. Verset 17, il s'est dit, voilà, moi il faut que j'aide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient faim. Regardez ce qu'il fait. Verset 17, j'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. Il s'est dit, moi aussi je vais contribuer à aider. Vous savez ce qu'il fait? Il invite 150 personnes à manger, tous les jours. Apparemment, Néhémie est un homme très riche. Très riche. Et dans ce texte, il apprend que ça sort vraiment de sa poche. C'est pas le roi des Perses qui paye ça, c'est lui qui paye ça de sa poche. Alors, c'est quoi l'application dans tout ça? Voici, je pense que c'est, il n'y a pas de reconstruction sans opposition. Il n'y a pas de reconstruction sans opposition. Moi, je vous donne un exemple. Quand je me suis converti, je fumais 2 paquets par jour de cigarettes. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas fumer. La Bible simplement dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, donc c'est logique qu'on ne veut pas détruire le corps que Dieu nous a donné avec de la nicotine. D'accord ? Mais il n'y a pas un verset qui le dit. Mais une fois que je me suis converti, je voulais arrêter. Mais j'étais un accro de la nicotine. D'accord ? Jamais fumé. Des Marlboro, je fumais. Et puis aussi des Rothman King Size. D'accord ? Parce que c'était cool, parce qu'il y avait la manche du pilote. Puis ça faisait vraiment cool. Mais je voulais arrêter de fumer. Alors un jour, il y a un gars à Genève qui est venu me dire... pas à Genève, moi j'ai fait ça à quelqu'un d'autre. En Inde, quand je suis converti là-bas, il m'a dit « John, est-ce que tu veux vraiment arrêter de fumer ?» Alors, la question est compliquée. Oui, d'un côté, je voulais vraiment arrêter, mais non de l'autre. Parce que tout en moi voulait fumer. Il a dit « John, est-ce que tu es prêt à arrêter maintenant ?» Waouh! J'ai dit, ok. Il m'a dit, donne-moi ton paquet de cigarettes. Alors, avec grande hésitation, je lui ai donné mon paquet de Marlboro. Je me rappelle très bien. C'est cher en plus. Moins cher que maintenant, c'est encore plus cher. Il me dit, John, est-ce que tu es sûr que tu veux arrêter de fumer maintenant? J'ai dit, ouais. Il a pris le paquet, et devant moi, il l'a déchiré en deux, comme ça. Il a déchiré le paquet en deux, il l'a jeté par terre. Il a dit, John, tu vas ne plus jamais toucher une cigarette de ta vie. Et j'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie à partir de cet instant. Et je me suis dit, waouh, ben j'avais tellement envie, et c'est ça, je vous raconte ça pourquoi. Parce que tout en moi allait commencer à combattre cette décision. Je voulais, mon corps voulait de la nicotine, je voulais de la nicotine. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Il y a eu une grosse bataille en moi, chaque fois que quelqu'un fumait une clope, oh, j'en avais envie, surtout avec du café. Oh là 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 là, j'en voulais tellement. Et je me suis dit, bon, John, tu fumais 40 cigarettes par jour, j'avais 19 ans. Hein. Je vais remplacer chaque cigarette que je veux fumer avec un chapitre dans la Bible. Je lisais 40 chapitres par jour. Et ça, c'était une lutte acharnée. Tous les jours, minutes, chaque fois que je voulais une cigarette, c'était la Bible. Et Dieu a permis la victoire. Il faut résister. Il faut résister pour reconstruire une vie. Et par la pure grâce de Dieu, et par son Esprit Saint, ben, ce côté-là a été vaincu dans ma vie. Alors, juste termine. 5, il faut honorer. Regardez le chapitre 7. Voilà, ils ont victoire sur leurs ennemis. D'accord ? Et là, vous arrivez au chapitre 7 et vous êtes en train de dire Néhémie pour votre culte personnel et vous commencez à lire. Lorsque la muraille fut rétablie, j'y posai des battants, des portes. On établit dans leurs fonctions des portiers, des chantres, des lévites. Je donnai mes ordres à Annie, mon frère, à Anania, chef de la citadelle à Jérusalem, homme supérieur, en grand nombre, par sa fidélité, par sa crainte. Et ensuite, à partir du verset 7, ils partirent avec Zorobabel, Jésus, etc. Et ensuite, on voit là, on commence des listes de noms. Verset 8, verset 9, regardez, des listes de noms. Verset 23, 38, 39, des sacrificateurs. 43, des lévites. 44, les chantres. 45, les portiers. 46, les nétiniens. 57, les serviteurs de Salomon. Et ça continue, ça continue, ça continue. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tous ces noms sont là? Des noms là, je prends n'importe quel verset, verset 32, Bethel Dai, les gens de Nebo, verset 33. Et puis ce gars-là qui s'appelle par exemple, dans verset 40, le fils d'Imer, c'est qui ça? On ne sait rien sur lui. Pourquoi est-ce que ces noms sont là? Probablement juste pour les honorer. Juste pour les honorer. Anani, un administrateur, hors norme. Verset 1. Les portiers, il y avait 138 portiers, selon le verset 45. Vous savez que la grande muraille de Chine n'a jamais été combattue ou cassée par les ennemis, mais 4 fois, les ennemis ont réussi à traverser le mur de Chine. Vous savez pourquoi? Pas parce que le mur était de mauvais état, parce qu'ils ont été soudoyés, les gardes. Et on voit l'importance d'avoir des bons portiers qui sont prêts à ne pas être soudoyés. Capital. 138. Il y avait les chantres aussi. Verset 1 à 2. Il y avait 148 chantres. Des chantres, il y avait aussi des chanteuses, pas des chantres, oui, des chantres, non, comment on appelle ça? Des chantres, oui. Et puis ensuite, 245 pour les chanteurs et les chanteuses. C'est différent, ceux qui mènent et ceux qui mènent pas, enfin, je sais pas. Il y avait les hommes du peuple d'Israël, des sacrificateurs, des lévites, des nétiens, des serviteurs de Salomon, bref, grand total, au verset 66 et 67, 49 697 personnes. C'est à peu près deux fois le stade de Genève, un petit peu moins. Pourquoi ? Pour les honorer. Pour les honorer. Je termine avec une histoire. Malheureusement, on n'honore pas assez les gens pour le travail qu'ils font. Stephen Davey raconte l'histoire d'un mari qui rentre à la maison après une journée de travail. Et en arrivant chez lui, il voit une scène de chaos total à la maison. Les trois enfants sont dehors, encore dans leur pyjama, jouant dans la saleté, et il y avait de la nourriture un peu partout dans la pelouse. La porte de la voiture de sa femme était encore ouverte, comme l'était d'ailleurs encore la porte d'entrée de la maison. Une fois qu'il rentre dans la maison, il voit une scène encore plus étonnante. Une lampe avait été renversée, la moquette était ouatée dans un coin. Dans le salon, la télévision était allumée avec le volume à fond. Des jouets d'enfants étaient éparpillés dans toute la maison, ainsi que leurs vêtements, à droite et à gauche. Dans la cuisine, la vaisselle sale était empilée dans l'évier et sur le comptoir. La nourriture du petit déjeuner était renversée sur la table. La nourriture pour le chien était renversée par terre. Il y avait même un verre cassé sous la table de la cuisine. Il y avait même une pile de sable dans la cuisine à côté de la porte. Alors il était inquiet. Il a vite couru en haut. Et il a essayé d'éviter en montant l'escalier, d'éviter tous les jouets qui étaient aussi sur l'escalier. Sans se casser la figure, bien sûr. Et il cherchait sa femme, soucieux, pensant qu'elle était peut-être malade ou qu'il y avait un problème grave qui s'était passé. Alors il arrive finalement dans la chambre à coucher, et là il voit sa femme, allongée dans le lit, en pyjama, en train de lire un roman. Il y avait même un toast demi-mangé et deux tasses de café sur le chevet de lit à côté d'elle. En voyant son mari arriver dans la chambre, elle l'a regardé, elle lui a dit « Bonjour chérie, comment était ta journée ?» Et il l'a regardé d'un regard perplexe, et lui dit « Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ici ?» Elle a souri. Elle a répondu, « Tu sais, chaque jour lorsque tu reviens du travail et tu me demandes ce que j'ai fait toute la journée, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas faire ce que je fais tous les jours, de ranger tout ça, de m'occuper de tout ça. » Et c'est vrai que c'est un rappel que peut-être nous ne sommes pas assez rapides à honorer ces personnes qui travaillent, parfois cachées, hors vue, de les remercier pour tout ce qu'ils font. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie où il y a reconstruction à faire. Ceux qui nous ont aidés, les remercier et les remercier encore. Donc, comment reconstruire ? Il faut décider, évaluer, déléguer, résister, honorer. Il y a encore deux points. Il faut donner, peut-être on le regardera la prochaine fois. Il faut donner. La dernière chose qu'ils font, c'est de donner financièrement pour le projet. Et finalement, il faut célébrer. Et ça, c'est le chapitre 8. Et ça, on va vraiment le voir dimanche prochain. Seigneur, quel plaisir ce matin de pouvoir parcourir rapidement ces chapitres. C'est vrai que c'est un peu frustrant. On a l'habitude d'aller beaucoup moins vite, de vraiment regarder des textes en détail. Mais voilà, c'était un survol intéressant, Seigneur. Et nous te remercions pour ce qui s'est passé à Jérusalem et la manière que tu as inspiré cet homme pour reconstruire cette ville, Seigneur, ce mur. Et ce mur qui était un mur important parce que cette ville serait la ville dans laquelle Jésus viendrait mourir 400 ans plus tard. Et Seigneur, cela nous aide à savoir comment ne pas nous décourager en reconstruisant les projets de nos vies, Seigneur. Donc, toi, toute la gloire, nous te remercions Et Seigneur, merci parce que tu as pris le temps et tu prends le temps de reconstruire chacune de nos vies, Seigneur. Même lorsqu'on résiste, Seigneur, tu travailles nos vies. Merci de tout cœur.